Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée à un ouvrage et un spectacle issu d'un travail de résidence en un lieu de mémoire considérable, mais aussi à une réflexion sur le péril jeune sociétal au travers de l'histoire de sa répression. Le lieu de référence ici, il s'agit de l'abbaye d'Anian. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant il est chargé d'histoire et de souffrance. Dans la période qui nous intéresse, l'abbaye d'Anian, comme aussi le centre de Belle-Île, plus connu, lui, est un lieu où on installa un centre de redressement pour mineurs. Un peu d'histoire donc en préliminaire. Anian est une petite ville de la vallée de l'Hérault. Un grand corps de bâtiments y est en place, qui fut d'abord une abbaye fondée en 782 par Vitiza, qui devint Saint-Benoît d'Anian. L'abbaye fut détruite pendant les guerres de religion, puis reconstruite au XVIIe par une congrégation mauriste. À la Révolution, l'abbaye est vendue comme bien national. Une filature de coton s'y installe en 1810. En 1843, l'entreprise fait faillite, la met en vente. Le ministère de la Justice rachète l'abbaye, l'aménage en maison centrale de détention en 1845, et la transforme en colonie pénitentiaire pour mineurs en 1885. Colonie qui fonctionnera jusqu'en 1914 sous cet intitulé, puis qui deviendra un établissement d'éducation surveillée avec un important changement de nature en 1945, mais qui fonctionnera jusqu'en 1994. C'est donc au final plus d'un siècle d'affectation à la jeunesse encadrée pour ce lieu. En 1889, 515 jeunes colons sont enclos dans 18 000 mètres carrés. Une ruche monstrueuse. Dans la nuit de Noël 1898, la ruche explose. Mutinerie, rébellion, évasion, qui se solde par une répression. Le bâtiment est un moment abandonné, et en 2010, la communauté de communes de la vallée de l'Hérault fait l'acquisition du site dans la perspective de le valoriser. Dans ce cadre, de septembre 2011 à mars 2012, est organisée une résidence artistique autour de l'écriture et de la photographie avec l'auteur François Ascal et le photographe Philippe Bertin. Le projet a essentiellement porté sur la vocation d'enfermement du lieu en l'élargissant aux notions d'enfermement des corps et de l'esprit. Donc une réflexion morale, humaniste, mais aussi artistique et historique. Il s'en est suivi un travail et des rencontres avec la population et avec un prolongement photographique par une exposition intitulée « Anen in motus, l'histoire en mouvement ». Aussi une écriture avec l'ouvrage « La levée des ombres » qui sera édité par un éditeur régional de Nîmes, les éditions Atelier Bay. Et une présentation publique du texte avec accompagnement musical par la compagnie montpelliéraine Cause Toujours. C'est donc l'intégrale sonore de cette présentation publique que nous vous proposons d'écouter en vous rappelant que nous avions, début 2014 déjà, consacré une émission à ce travail avec quelques extraits et un entretien en duplex avec la responsable du projet et auteur du texte, Françoise Ascal. Le comédien qui assure les dictions avec Françoise Ascal est Laurent Dume et le musicien improvisateur est Fred Tari. Bonne écoute.
Anian, 8 novembre 2011. Ciel bas, terre éventrée, bâtiment en dérive, palmiers malades, fontaine à sec, chien dent, gravat. Le vent souffle, les nuages filent, au loin, la sérane semble reculer. Tapis dans ses ombres et replis secrets, le mot « abbaye » attend son heure. Trop de portes, trop de fenêtres, trop d'escaliers, couloirs, étages.
Trop de bâtiments, plus vastes les uns que les autres, s'additionnant, s'excluant, se permutant. Trop de projets, fantasmes, rumeurs, trop de douleurs, tues. Trop d'empreintes, trop de vestiges, trop de siècles. Abbaye, filature, prison, dedans, dehors, dehors, dedans, sortir, rentrer, fermer, ouvrir. Où porter le regard? Dans quel ordre? Monceau de terre, prêt à se soulever ou à s'enfoncer, à croître ou disparaître. Fouille à ciel ouvert entre les murs écaillés. Quelques parements de pierre, quelques tessons, une paroi de four de potier, un début de bassin, une amorce de canalisation, bribes d'histoire qui veulent sourdre. Manque la langue pour les déchiffrer. Descendre. Descendre dans les plis du temps. Combien de couches superposées, combien de coups de sonde,
combien de feuilletages patients, plus profonds, plus étendus, pour dégager un pan de savoir, éclairer le présent. Comment avancer dans l'aujourd'hui mouvant, l'aujourd'hui incertain, si nos assises manquent, si notre histoire proche ou lointaine.
Comment avancer dans l'aujourd'hui mouvant, l'aujourd'hui incertain, si nos assises manquent, si notre histoire proche ou lointaine reste muette. Tags innombrables, obsédants, ajoutent à la décrépitude. Pas un mur n'y échappe. Des oiseaux volent et criaillent entre les plafonds effondrés, les fils électriques arrachés, les cloisons éventrées. Vaste salle cloisonnée en niche, mieux asservir, mieux tenir en laisse. On devine ce qui fut chambre, 3 mètres carrés, personnel. Progrès considérable si l'on compare aux cages précédentes et aux cellules de réflexion. Succession de portes en enfilade, de sas et de seuils formant labyrinthe. Atelier de mécanique, plomberie, maçonnerie, menuiserie et sursaut éducatif dans l'ancienne chapelle, ici même. Salle de théâtre au fauteuil rouge aujourd'hui disloqué. Dominant les toitures, une Vierge Marie en robe bleue. À l'écart, l'infirmerie, un peu plus loin la morgue. À l'écart aussi, mais dans une autre direction, un jardin privé d'une grande beauté, desservant un appartement dont les murs sont ornés de médaillons peints, les fenêtres de vitraux, résidence seigneuriale, celle du directeur. Les pierres sont-elles poreuses? Qu'ont-elles retenu, perdu en leur cœur sombre? Sont-elles capables de répandre des ondes de vie après l'épreuve, comme ces graines que le feu fait germer? Les pierres sont-elles des livres refermés qu'il faut caresser de la paume pour qu'un alphabet se lève et dévoile un fragment de récit? Faut-il écailler à main nue l'ancienne peinture pour que suinte la douleur, Faut-il frapper les pierres pour libérer les cris ? Crier sans voix, sans nom, saturant de leur densité les fibres de silence. Chercher l'autre monde, celui qui est couché parallèlement sous le visible, celui qui attend qu'on soulève le voile, qu'on soulève la terre, qu'on soulève le poids des préjugés. Savoir, savoirs enfouis, perdus ou pétrifiés dans l'illusion. Imaginaire fixé par les légendes, les rumeurs, les on-dit. Descendre. Plus profond, décaper, fouiller, dégager les racines, atteindre le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui des temps lointains, le bel endormi de nos mémoires collectives, toujours prêt à renaître, à livrer quelques secrets sous les gravats, à faire surgir du caveau un troupeau d'ombres aux bouches murmurantes. Foule, des serres anonymes, contraints à la rudesse paysanne, tandis que rayonne, puissant, parmi les puissants, Benoît, Danian. Foule, des sans-paroles, gens de la glèbe, dites-nous, est-ce que l'air alors était plus léger autour du cloître ? Est-ce que les flancs des poissons luisaient au soleil dans les bassins de l'abbaye ? Est-ce que vos dos ployait à se rompre sous les charges. Face à la cour, qui autrefois fut le verger des moines, installé sur le pourtour des ateliers, des bancs de bois, deux planches rugueuses mal assemblées. La douceur de l'air pourrait donner le goût de s'y poser, jouir de la lumière entre les platanes qui ont remplacé les arbres fruitiers. Mais d'autres images brouille le regard.
Des silhouettes encore floues de gamins surgissent.
On croit entendre le bruit des machines, les coups de marteau, le son des lames de scie qui usent les tympans. On croise le regard de celui qui surveille, contrôle, réprime sans répit. On se demande quand, à quel moment, pour combien de temps un adolescent s'est assis en ce lieu pour regarder le ciel, s'échapper un instant par le haut. Mais avait-il envie de regarder le ciel ? Pouvait-il même rêver ? Crâne grondant d'une colère obstruant toute issue, rage tenace qui lacère, ou bien fatigue ? Fatigue incommensurable de celle qui fait plier l'échine et conduit au renoncement ? À moins que d'avoir trop vagabondé, d'avoir eu faim, couvert et gîte apporte une forme de soulagement. Pour combien de temps ?
Bandit,
voyou, voleur, chenapan, qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? Bandit, voyou, voleur, chenapan, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Poème de Jacques Prévert, 1936. 1890, congrès sur les colonies pénitentiaires. Il faut soumettre l'enfant. S'il continue à fauter, c'est que la discipline n'est pas suffisante. 1914, le petit méridional du 30 avril. Tout un ramassis d'individus tarés, au moral atrophié, à la conscience éteinte qu'on envoie dans les colonies pénitentiaires. Apache, blouson noir, délinquant, le péril jeune menace de toutes parts. Le vocabulaire change, mais tonne, roule et rebondissent sur les pierres des villes, sur leur périphérie, les mots râpeux, les mots acides, les mots vitriol, jetés en plein visage, ils blessent comme des armes. Racaille, dites-vous. Citron, émeraude, fuchsia, noir corbeau, acrylique fauve d'un siècle flashy, giclure sur les pierres séculaires de l'abbaye dévastée, sur les bois sironnés d'un monde enfui, sur les lambeaux de papier peint qui battent au vent. Tag, tag, tag sur les mondes blancs de notre amnésie, de nos abandons, sur les tabous, les absences, les silences. Tag, tag, tag sur les plus jamais ça, renaissant sans cesse. Tag, tag, tag entre ronces et barreaux sur le carrelage d'une ancienne infirmerie. Tag, tag, tag à la place du sang qu'on ne verra pas. Tag, tag, comme si les murs eux-mêmes suintaient d'une violence secrète, comme si les tags d'aujourd'hui n'étaient que les embûts d'hier, lentement remontés à travers l'obscur de nos mémoires. Tag, tag.
100 des 218 morts,
des 218 morts du choléra, 100 des émeutes, 100 du fuyard qui, 100 du gardien qui, 100 de celui qui, 100 de la racaille d'ici ou d'ailleurs, 100 des solitudes humaines toutes confondues, 100 des mots imprononçables, 100. Suffisait-il de rehausser les murs d'enceinte, 7 mètres au lieu de 5, de construire un chemin de ronde et un quartier disciplinaire pour faire cohabiter 515 colons sur 18 000 mètres carrés insérés à l'intérieur d'un village? En 1889, ils étaient 515. Situation explosive, en dépit des précautions. Ruche monstrueuse, une centrale, oui, humainement nucléaire, pouvant voler en éclats à tout moment. Mutinerie, rébellion, évasion. Nuit de Noël 1898. Elle hante les ateliers, se répand dans les cuisines, les dortoirs. Elle n'a pas d'odeur, nul ne connaît ses trajets. Elle suit des lignes de force invisibles. Elle se nourrit d'un rien, geste, parole, regard, chicane, la haine court. Souterraine, la haine court, on ne l'entend pas. Elle traverse des corps désarmés, des corps rageurs, des corps humiliés, des corps d'enfance inachevés. Comme la foudre, elle s'abat, mais aucun tonnerre ne l'annonce. La haine, soudain, explose, frappe, enflamme, consume, calcine, chair et cœur. La haine. Criminel né, votre morphologie vous trahit. Dès 1876, le docteur César Lombroso a dressé la liste de vos traits. Criminel né, assis en rond à l'heure de la pause. Vous avez 12 ans. Vous sortez de vos poches une poignée d'osselets. Un court moment, vous oubliez vos membres raidis, les odeurs de cuir ou de métal, la poussière de chanvre, les bruits de marteau, les regards vigiles qui ne vous lâchent pas. Vous oubliez boutons, espadrilles, sonnettes, cabas, peignes que vous fabriquez à longueur d'année. Malgré le laminage, vous jouez. Les gaffes n'y peuvent rien. Certains voient-ils que vous ressemblez à leur fils ? Arrive-t-il qu'une partie se poursuive après que la cloche ait sonné ? Pareil aux enfants de l'Antiquité munis de tarses de moutons, d'un geste habile, vous lancez le père, vous faites le coup de sang, vous enchaînez les retournettes, balayettes, omelettes, les osselets ricochent sous la galerie du cloître, petit bruit de vie, éclat de ciel. Qui réussira sa tête de mort en gardant le père bien à plat sur le dos de la main sans le faire choir ? Criminel, né, non éducable, inamendable, vicieux, dégénéré, pervers, marqué par vos gènes et vos tares, vous ignorez qu'un siècle et demi plus tard, c'est dans le ventre de vos mères ou presque, qu'on pensera vous dénicher en 2005. Puis, en 2010, avec le rapport Bockel, de nouveaux adeptes de César Lombroso, des scientifiques, préconisent le dépistage des troubles de conduite. Dès le plus jeune âge, les professionnels sont invités à repérer des facteurs de risque prénataux et périnataux, génétiques, environnementaux, et liés au tempérament et à la personnalité. Dès 36 mois, on pourra repérer des traits de caractère tels que la froideur affective, la tendance à la manipulation, le cynisme, ainsi que des signes d'indocilité, faible contrôle émotionnel, impulsivité, hétéro-agressivité, indice de moralité bas. Mais ces futurs délinquants auront le privilège, contrairement à vous, petits joueurs d'osselets, d'être rééduqués, pour peu que l'État intervienne à temps. Où sont les vestiges vibratoires de la part spirituelle du lieu. Connaissant le passé bénédictin, on en espère la présence. Mais la colonie pénitentiaire a tout pris, tout recouvert, conquête de l'ombre sur la lumière. Lumière imaginaire, peut-être. Pensez à ces moines du mont Athos, évoqués par Kazantzakis, qui vieillissait rongé d'amertume et de regrets sans avoir trouvé la paix. Les moines d'Anian, jeunes ou vieux, venus de leur plein gré ou poussés par la nécessité, soumis à l'intransigeance de leur chef trop ardent, n'ont-ils pas sombré quelquefois dans le péché monastique, péché capital dénoncé par les anciens, mal qui ronge l'âme, éloigne de la contemplation heureuse, torpeur, dégoût, découragement, cœur dévié, vain et vagabond, dira plus tard Bernard de Clairvaux. Mélancolie, spleen, ténèbres intérieures, une bile noire envahit l'être pour ne plus le lâcher, c'est l'acédie. Pourquoi une communauté de moines ne pourrait-elle dégager des vibrations négatives ? Reflet de leurs conflits, de leurs faillites, de leurs assédies. Humain, trop humain. Cinquante sur deux. On les appelait cage à poules. Une photo d'archive les montre serrées côte à côte, plafond bas, treillis grillagés. 1,50 m sur deux. 234 cellules équipées de leviers automatiques. Il fallait bien lutter contre les risques de caresses. Il fallait bien sévir face aux tendresses nocturnes, glissements suspects d'un lit à l'autre. Il fallait bien couper court à la chair en feu, au désir et à la soif du jeune âge. Mécanisme efficace, très astucieux. À la même seconde, 234 portes tombaient sur 234 solitudes. Nuit. Grandes absentes, vous manquez. Où sont vos yeux, vos pensées, vos larmes? Où sont vos gestes de tendresse, de compassion? La colonie regorge de mâles et d'enfants mâles. La colonie hisse sa virilité comme un drapeau. Femme d'Anian, absente des photos d'archives, des livres d'histoire, des articles de presse, où êtes-vous? Quelle poigne vous cloître dans vos maisons si proches? Quel décret vous interdit d'apporter ici un geste de douceur, une parole de mère? Les hommes vous craignent-ils encore comme des créatures lunaires dont il faut se méfier, des ensorceleuses à écarter de leur chemin diurne? Au creux du lit, pourtant, vos maris connaissent l'abandon. Vos maris ont beau porter l'uniforme du gardien, du militaire, de l'inspecteur, du directeur. Ils se nourrissent de vos forces d'accueil. Ils goûtent au répit et jettent parfois le masque. Vous seul connaissez leur fragilité. Auriez-vous pu changer le cours des événements si... loin d'être recluse dans vos cuisines ou rivée entre vignes et champs, on vous avait confié une part de la charge? Quelle alchimie secrète aurait alors modifié les proportions de la violence? Auriez-vous résisté à la contagion ambiante? Seriez-vous devenu pareil aux soldats en dérive d'Abu Ghraib? Laquelle d'entre vous aurait brandi le fouet ? Voleur de pommes et de quignons de pain, voleur de montres ou des 3 sous indispensables à votre survie, livré à vous-même, vous errez en bande dans l'hostilité du monde, ni père ni mère pour veiller sur votre sommeil, aucun foyer pour réchauffer vos mains. L'histoire sans cesse fait son manège et sans cesse revient au jour ce qu'on croyait fini. Êtes-vous les fils et petits-fils de ces nourrissons confiés au cocher d'eau dont parle l'historienne Arlette Farge? Nouveau-né, mal-né, condamné à prendre place dans les casiers de bois aménagés sur le pont du bateau, à voyager loin du sein des mers trop démunis, condamné à être vendu à une famille qui fera d'eux, selon son bon plaisir, une paire de bras exploitables à merci, un souffre-douleur, un petit domestique intime. Parfois, coup de dé imprévisible, la nourrice de fortune, mue par une compassion naturelle, s'attache à l'enfant comme à l'un des siens. Puisse le petit morceau de bavoir gardé par vos mères, à l'instant de l'adieu, servir de talisman. Quinze. Enfant rebelle, enfant en fuite, bondissant dans les broussailles, cœur battant à 100 à l'heure, vous êtes les faisans du jour, les volatiles bagués qu'on lâche sous le fusil du notable, un dimanche d'automne où l'ennui règne parmi les chasseurs inoccupés. Enfant rebelle, enfant en fuite, déjà l'alerte est donnée. Cachez vos crânes à demi rasés, dissimulez vos hardes, vos fringues rayées de détenus. Courez, sautez, rampez entre les vignes, gagnez l'horizon. Combien de temps avant la nuit? Combien de kilomètres avant qu'un plomb au mollet vous terrasse, qu'un chien vous lève derrière une souche, qu'une poigne rapace s'abatte sur votre nuque? Enfant, gibier, bagnard à la peau tendre, courez, courez, la peur au ventre, courez et trébuchez, courez et relevez-vous, courez plus vite, déchirez vos jambes sur les ronces, blessez vos pieds sur les pierres, courez sans espoir, droit devant, courez vers le monde hostile qui vous cueillera dans votre élan, vous malaxera comme il convient pour vous dégauchir, vous rectifier, vous dresser, redresser, mater, corriger, éduquer, embastiller, courez, courez, votre retour est inscrit de toute éternité à la niche, au mitard, au fer, aux abois, à la faim, à la colère, à la douleur qui sont votre lot, enfants rebelles. Tristes évadés, vos prédateurs ne sont pas des fauves, ce sont d'ordinaires villageois, bons pères de famille, travailleurs. Et si une prime les excite, comme la viande rouge les loups, c'est pour votre bien, chacun veut le croire. « 16. Voleur de pommes et de quignons de pain, enfant vagabond, gardez-vous dans les replis de vos mémoires le balancement des barques déportant vos ancêtres encore nourrissons vers les provinces profondes. La ville vous a jeté dans ses marges, assigné aux poubelles, aux décharges, carton, ficelle, guenille, fruits pourris, à moins qu'un juge ne vous expédie là-bas en maison de correction pour vous donner une chance, vous instruire, ou pour réduire votre nuisance comme on le fait pour la vermine. Colonie de Belle-Île-en-Mer, Ace, Agnane, si close, si verrouillée que nul ne sait vraiment ce qui s'y passe. Il faut bien se protéger du plus grand danger social, le bandit imberbe. Ainsi s'exprime l'illustre professeur et académicien Émile Faguet. Au fil du temps, votre sort semble s'améliorer. Des lois, peu à peu, corrigent les failles de la justice. Certains d'entre vous apprennent un métier, retrouvent un embryon de confiance. Et pourtant... Et pourtant, 150 ans plus tard, dans les rues de Paris, de Lyon, de Marseille, sur les quais du métro, sur les bords des fleuves, de jeunes SDF à peine plus âgés que vous affrontent de semblables épreuves. Chaque époque réinvente son vocabulaire, mais toujours il est question de sécurité, 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 sécurité. Aïe, 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 sécurité, sécurité, aïe, 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 sécurité. Un mot chien de garde pour broyer légalement. Aïe, 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 aïe. De quel droit parler de ce qu'on ignore ? Approcher avec précaution. Mitard.
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 On répète le mot.
On répète le mot. On laisse venir, on laisse les, venir clichés. Les clichés. Mitard. Mitard.
Cachot.
Cachot. Mitard.
Trou.
Trou. Basse-fosse. Mitard. Cage. Mitard. Cave. Puits. Tombeau. Mitard. Mitard. Froid.
Tombeau.
Humide.
Froid.
Mitard. Humide. Silence. Mitard.
Silence.
Absence. Nuit.
Absence.
Macération.
Nuit.
Aveuglement.
Macération.
Charivari d'insectes.
Aveuglement.
Mitard. Fureur de rat.
Fureur de rat.
Mitard. On lit ce qu'ils en disent, eux.
On lit ce qu'ils en disent.
Leurs témoignages, mythes,
leur mensonge,
douleur.
Mythe,
mensonge,
mitard, douleur.
Mitard, on croit mitard. Entendre tourner des gonds.
On croit entendre tourner des gonds.
On voudrait de l'eau.
On voudrait
mouiller leur front. Mitard, mitard,
mitard.
Mitard. Mitard, 23 heures
sur 24.
Brise
les chines.
Ni coup, ni trace. Mitard, mitard. 23 heures
sur 24.
Broie la cervelle. Rend fou.
Rend fou.
Mitard, mitard, 23 heures. Sur 23 heures
sur 24,
tue l'enfance, mitard,
en toute impunité.
Un conservatoire d'enfants flétris, une pépinière de petits martyrs, zoo d'Axa, à propos de la colonie pénitentiaire d'Anian, publié dans La Feuille, 1898. Que faire de ces mots? Comment les évaluer? Quelle part de vérité? Quel utile cri d'alarme? Quelle manipulation? Le chemin de la colonie déborde de chausse-trappes, piège à gauche, piège à droite, pour qui n'est pas historien, ethnologue, anthropologue. Travail sur une matière en feu. Travail à main nue, ou presque. L'outil poésie, que peut-il ? L'outil émotion, l'émotion peut-elle devenir un outil ? L'outil conscience, civique, politique ou tout simplement humaine ? Travail sur l'enfant puis l'adolescent que chacun fut. Travail sur le bourreau que chacun pourrait être. Travail sur l'intime, là où gîte la part obscure, ce réservoir de notre commune ignorance. Qu'y a-t-il derrière une vérité profonde? Une autre vérité profonde, écrit Pascal. On pousse une porte qui ouvre sur une autre porte, qui ouvre sur une autre porte, qui ouvre. Pas de salle illuminée au bout du chemin, pas de tapisserie en gloire pour dresser les hauts faits. Ce qui appartient à l'intimité d'Anian restera ombreux. Quelques coups de projecteur, quelques éclats de voix, quelques mots posés sur la matière mémoire, sur la matrice temps. Les témoignages abondent, les non-dits prospèrent, les censures agissent. Les croyances se déploient, les fantasmes foisonnent, les mythes se cristallisent.
Un historien affirme,
un autre dément.
Les photos sont truquées.
Les cartes faussées. Les coups de tampon falsifiés.
Les paroles vives ont chuté en terre.
Les morts se taisent obstinément. L'archéologue dit qu'on ne sait pas. L'ethnologue dit qu'on ne sait pas. Ancienne fondation.
Prison de force.
Colonie pénitentiaire.
Maison de correction.
Bagne d'enfants. Centre de détention. Nos mains de vivants dérapent sur vos noms rugueux, sur vos blocs de silence.
Sur vos verrous.
Nous n'aurons pas de réponse. Nous grappillerons des bribes de sens, nous tenterons de nouer ensemble des savoirs effilochés. Personne ne dressera pour nous la table de la vérité profonde. Nous sommes condamnés à l'intranquillité. Le poème résiste. Il se défend à l'image de son sujet. Il brouille les pistes, laisse entrevoir une issue, laisse espérer, prend la pause. Le poème à venir tient tête. On croit qu'il suffit de tendre la main, mais à l'instant il se dérobe, s'éloigne dans l'espace et le temps, chute dans l'une des fosses creusées par les archéologues, s'esquive dans la trame noire et blanche des photos d'archives, disparaît des dossiers policiers. Le poème, il enjambe les siècles, sans écart pour la chronologie. Il absorbe le pain de la douleur et l'eau de la tristesse de François Villon, obstrue la fenêtre d'un mirador du 21e siècle. Le poème à venir est fait de 1000 éclats invisibles, de 1000 mots anonymes, lovés dans le secret des corps, déposés dans les mémoires ou abandonné au vent. Le poème s'enracine dans une abbaye dévastée, une fabrique oubliée, une prison désaffectée, un éphémère centre de rétention. Le poème attendu appelle à lui des ombres restées floues. Colons, gardien, vagabond, militaire, abbé, confesseur, policier, cuisinier, blanchisseur, tisserande, chef d'atelier, éducateur, juge, directeur, ouvrière, inspecteur, voisin, voisine, balayeur, vigile, clandestin. C'est un cœur qu'il faudrait à la place du texte, un lamento, une cantate, un chant de multitude, une jonction des souffles, une profusion légère et grave, aérienne et rauque, confiante et plaintive, un office des vivants et des morts, toute douleur résorbée, une consolante polyphonie. C'est un cœur qu'il faudrait à la place du texte, un lamento, une cantate, un chant de multitude, une jonction des souffles, une profusion légère et grave, aérienne et rauque, confiante et plaintive, un office des vivants et des morts, toute douleur résorbée, une consolante polyphonie. Le poème attendu appelle à lui des ombres restées floues. Colons, gardiens, vagabonds, militaires, abbés, confesseurs, policiers, cuisiniers, blanchisseurs, tisserandes, chefs d'atelier, éducateurs, juges, directeurs, ouvrières, inspecteurs, voisins, voisines, balayeurs, vigiles, clandestins. Le poème attendu appelle à lui colons, gardien, vagabond, militaire, abbé, confesseur, policier, cuisinier, blanchisseur, tisserande, chef d'atelier, éducateur, juge, directeur, ouvrière, inspecteur, voisin, voisine, balayeur, vigile, clandestin, colon, gardien, vagabond, militaire, abbé, confesseur, policier, cuisinier, blanchisseur, tisserand, chef d'atelier, éducateur, juge, directeur, ouvrière, inspecteur, voisin, voisine, balayeur, vigile, clandestin, colon, gardien, vagabond, militaire, abbé, confesseur, policier, cuisinier, blanchisseur.
blanchisseur, tisserand, chef d'atelier, éducateur, juge, directeur, ouvrière, inspecteur, voisin, voisine, balayeur, vigile, clandestin.
Abbaye. Le beau mot d'abbaye, rabattu au sol entre ronces et tagues, écorché par des années de délaissement. Maintenant, il est question d'ouvrir portes, fenêtres, cœur, esprit, libérer les pierres, lever les ombres. Il est temps de secouer les énergies mortifères cousues dans ce carré de mémoire, temps d'activer la métamorphose, temps de se souvenir que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles deviennent. Temps de tourner le regard vers l'inespéré qui ne saurait venir sans un peu d'espérance.
Ce matin-là, les enfants ont soulevé la poussière de l'abbaye. Ils ont brassé l'air de leurs paroles et exclamations. Leur insatiable curiosité, leur énergie, leur vigueur ont délogé les fantômes. Sans doute, les hordes d'araignées ont-elles fui au plus profond du bâtiment. L'abbaye pesait moins lourd sur les cœurs. Bonnet rouge, écharpe orange, gants de laine bleue, les couleurs vibraient dans le froid vif qui mordait les chevilles. Ce matin-là, chacun, chacune écrivait au fil de la déambulation, malgré l'inconfort, et notait à la volée, appuyé contre un platane centenaire ou accroupi sur un seuil de pierre disloqué. Des enfants cueillaient des mots, ici et là. Ils dressaient d'insolites inventaires que Prévert n'aurait pas dédaignés. Arrivés dans le jardin privé de l'ancien directeur, ils se sont éparpillés joyeusement, l'un s'étonnant de l'ampleur du magnolia, l'autre ravi de voir couler l'eau de la rivière en contrebas, un autre encore scrutait les traces de pneus d'un tracteur, se demandant gravement de quelle époque elles pouvaient être. On pouvait presque voir, entendre le dessin des jours futurs. Jour de saison nouvelle, d'où malédiction et tabou seraient abolis. Jour de mémoire apaisée.
Ce matin-là, les enfants ont soulevé la poussière de l'abbaye. Ils ont brassé l'air de leurs paroles et exclamations, leur insatiable curiosité, leur énergie, leur vigueur ont délogé les fantômes, sans doute. Les hordes d'araignées ont-elles fui au plus profond du bâtiment ? L'abbaye pesait moins lourd sur les cœurs. Bonnet rouge, écharpe orange, gants de laine bleue, les couleurs vibraient dans le froid vif qui mordait les chevilles. Ce matin-là, chacun, chacune, écrivait au fil de la déambulation, malgré l'inconfort, et notait à la volée, appuyé contre un platane centenaire ou accroupi sur un seuil de pierre disloqué, les enfants cueillaient des mots. Ici et là, ils dressaient d'insolites inventaires que Prévert, Jacques Prévert, n'aurait pas dédaigné. Arrivés dans le jardin privé de l'ancien directeur, ils se sont éparpillés joyeusement. L'un s'étonnant de l'ampleur du magnolia, l'autre ravi de voir couler l'eau de la rivière en contrebas, un autre encore scrutait les traces de pneus d'un tracteur, se demandant gravement de quelle époque elle pouvait être. On pouvait presque voir, entendre le dessin des jours futurs, jours de saison nouvelle, d'où malédiction et tabou seraient abolis, jour de mémoire apaisée. Ce matin-là, il suffisait de se pencher sur l'herbe que foulaient les grappes d'enfants pour découvrir, discrète, entre les tiges, la poussée irrépressible des premières violettes.
Ainsi se termine cette émission qui était construite à partir de l'enregistrement sonore d'un spectacle issu d'un travail de résidence en un lieu de mémoire considérable, l'abbaye d'Aniane. Fruit de ce travail, l'écriture de l'ouvrage « La levée des ombres » par l'auteur Françoise Ascal a servi de base à ce spectacle éponyme. Nous la remercions de sa confiance, d'avoir bien voulu nous confier la diffusion de ce document sonore.
Thank you. Thank you.